Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons ensemble ouvrir la parole de notre Dieu. Premier passage qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 7 et au verset 36. Et nous lisons ce petit extrait du long discours d'Étienne, ce discours qu'il a fait, qui s'est malheureusement achevé pour lui par son martyre. Mais nous lisons là, simplement, lorsqu'il est en train de parler de Dieu et du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, verset 36, « C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. » Voilà, ici vous avez une des citations du nombre 40, vous en avez 10. Dans le livre des Actes des Apôtres. Et si vous avez ces 10 citations du nombre 40, ce n'est pas un hasard, et il est bon de nous rappeler que ce nombre, le nombre 40, c'est celui qui représente l'épreuve, la difficulté, la nécessité de la persévérance. Ainsi, le déluge, nous le savons, a duré 40 jours avant de diminuer. Et ainsi, Ninive a eu 40 jours pour se repentir et pour changer, du temps du prophète Jonas, pendant lesquels Dieu a mis ses habitants à l'épreuve. Et ainsi Goliath aussi est sorti, matin et soir, défier Israël pendant 40 jours, avant que David ne mette un terme à ses insultes et à ses vantardises. Et on pourrait multiplier les exemples dans la parole de Dieu à ce sujet. Nous pouvons encore parler, bien sûr, de Moïse, avec deux périodes de jeûne et de prière de 40 jours, afin d'obtenir de la part du Seigneur la loi écrite du doigt de Dieu sur les tables de pierre. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu ces deux périodes de 40 jours? Pourquoi est-ce que, sur le mont Sinaï, pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas donnés directement à Moïse alors qu'il était avec le peuple en bas de la montagne? Dieu ne l'a pas voulu ainsi, et ceci pour plusieurs raisons destinées à l'enseigner lui, et à lui faire comprendre des choses importantes, tout comme à nous d'ailleurs. Déjà pour lui montrer, en premier, il y a une dizaine de choses qu'on peut voir, que Dieu a voulu lui montrer. En premier, que cette loi de Dieu, cette parole de Dieu, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'immensément précieux. Et puis ensuite aussi, pour lui confirmer qu'il ne s'agit pas simplement d'une parole d'homme, ni même d'une parole de Dieu mêlée avec l'interprétation d'un homme, même remarquable, mais de la pure parole de Dieu. Et de lui seul. Et puis aussi, pour lui montrer l'importance de la prière et de la communion avec Dieu pour recevoir cette parole, cette loi de Dieu de la bonne façon. Et encore pour lui montrer l'importance de la mise à part, de la sanctification, l'importance de la persévérance en cela pour bien recevoir cette parole et pour bien la saisir, pour bien la comprendre. Et aussi pour lui montrer qu'il n'y a que ceux qui veulent vraiment, ceux qui sont prêts à payer un prix pour ça, qui auront la révélation de cette parole qui est claire et qui peut donner l'intelligence même au plus simple. Et combien, encore une fois, il est démontré que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Et puis, en sixième aussi, pour lui montrer qu'au contraire de ce que les hommes imaginent, au contraire de ce que le diable essaye de leur faire croire et leur faire trop souvent facilement croire, eh bien, ce n'est pas dans un but d'esclavage mais de libération que cette loi, que cette parole a été donnée. Je vous ai délivré du joug de l'esclavage afin et je vous ai fait marcher la tête levée, dit le Seigneur en introduction de cette loi. Et l'apôtre continue en nous disant, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne devenez donc pas esclaves des hommes, de leur façon de faire, de leurs opinions, etc. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et puis il est dit encore, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Donc c'est la puissante réalité de cette obéissance totale à la loi de Dieu qui libère totalement. De cette soumission du cœur au commandement divin qui nous rend totalement libre. C'est Augustin qui a résumé cela dans cette phrase courte mais profonde. Aime Dieu et fais ce que tu veux. Voilà, ça donc c'est la réalité. Et puis ensuite aussi pour lui montrer que cette loi de Dieu qui lui révèle, ça va le rendre sensible au péché. Il y a quelqu'un qui disait fort justement, ce livre t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de ce livre. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Nous voyons que, effectivement, Moïse, quand il est descendu de la montagne, il était vraiment, il était vraiment sensible au péché. Il n'a pas supporté ce qui se passait en bas avec le veau d'or. Et nous savons comment il a réagi avec force à l'encontre du péché parce qu'il le haïssait. Mais que voyons-nous encore. Voyons aussi cette parole de Dieu, lorsqu'elle est ainsi reçue, crue, eh bien, elle nous donne de l'assurance. Elle nous donne l'autorité d'en haut, l'autorité spirituelle qui vient de Dieu, comme on le voit clairement dans cette même situation avec le veau d'or dont je viens de parler. Et puis aussi, en neuvième, pour lui montrer à Moïse que toute la suite de la marche dans le désert qu'il va y avoir et toute la conquête du pays de Canaan, c'est quelque chose qui doit être basé sur cette révélation de la loi de Dieu, et c'est quelque chose à quoi il faut toujours revenir. Et c'est de cette manière-là qu'on va être conduit, qu'on va être gardé, exaucé et béni. Et bien sûr, nous voyons bien combien il en est ainsi pour nous aussi. Enfin, en dixième, c'est pour lui montrer que c'est un moyen de mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve pour savoir où chacun en est. La façon dont nous saisissons ou non la révélation de la parole de Dieu, où nous en emparons ou pas, où nous luttons avec persévérance ou non pour la posséder, voilà, c'est aussi ce que cette parole, donc ce que cette situation nous permet de réaliser. Et ça nous amène donc maintenant à Christ, on va parler de Moïse un petit peu, ça nous amène à Christ donc dans la vie terrestre duquel il nous est parlé aussi de deux périodes de 40 jours, de périodes particulières. Vous avez la tentation au désert, évidemment, où il ne mange à point pendant 40 jours et 40 nuits. Et puis vous avez aussi cette période qui sépare la résurrection de l'ascension, la résurrection du Seigneur et l'ascension lorsqu'il s'est élevé au-dessus de ses disciples pour partir dans la gloire du ciel. Et ça aussi, c'est une image pour nous. Déjà, ces 40 jours de tentation et d'épreuves qui ont suivi le baptême pour Jésus, puisque c'est passé juste après son baptême, l'Esprit l'a emmené dans le désert, juste après le baptême, pour qu'il soit tenté par le diable. Ça nous parle aussi des épreuves qui suivent effectivement la nouvelle naissance, la conversion du chrétien. Le grand point, mes amis, il faut que nous réalisions que Dieu a une vision pour notre vie. Mais cette vision, elle a besoin d'être préservée, surtout quand ça commence, surtout au début, surtout au départ. Si je prends une image qui va nous aider à comprendre cela, c'est lors de la grossesse et de la naissance d'un enfant. Les premières semaines de la grossesse sont les plus risquées pour la survie du bébé, et il en va de même pour la vision que Dieu fait naître en nous. Vous devez la protéger et vous devez la défendre coûte que coûte. Souvenez-vous que le diable a tenté de faire mourir Moïse et de faire mourir Jésus alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il craignait ce qu'ils allaient accomplir plus tard. Et il avait raison de le craindre. Il en est de même pour vous et pour moi. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Et de plus, vous savez qu'une future maman doit s'astreindre à certaines règles de vie afin de donner naissance plus tard à l'enfant que Dieu a placé en elle. Et si le médecin lui dit « il ne faut pas que vous fumiez, il ne faut pas que vous buviez d'alcool, il ne faut pas que vous mangiez certaines choses », c'est parce qu'il pense à l'avenir de l'enfant. Et je dirais que quelque part, l'appel divin à donner vie à la vision qu'il nous confie exige aussi que vous comportiez d'une façon, que nous comportions d'une façon radicalement différente des autres. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte effectivement de s'éloigner de relations qui risquent de nous faire du mal, d'éviter certains endroits qui ne nous apporteront rien. Bref, ça nous amène à réorganiser les priorités de notre vie en fonction de la destinée que Dieu a prévue pour nous et pas en fonction de l'opinion des autres, mes amis. C'est important cela. Et si on s'imagine qu'il va être facile de réaliser cette vision pour nous, eh bien, considérons le prix qu'il y a à payer pour l'accomplir. Vous savez, toute naissance implique de la souffrance. Implique de la souffrance, de la solitude, des heures d'insomnie, des changements de régime, d'habitude, sans compter le déchirement physique qui est toujours possible, les marques qui ne s'effaceront pas. Donc, avant de répondre oui sans réfléchir à l'appel de Dieu, concernant cette vision, eh bien, il faut se demander, mais est-ce que je suis prêt à payer le prix, à assumer effectivement, jusqu'au bout, cette vision pour l'accomplir. Vous savez, la vision de Dieu, ce n'est pas pour les trouillards, C'est pas pour les gens qui n'ont pas de persévérance, c'est pas pour les gens qui n'ont pas de conviction dans leur cœur, c'est pas pour ceux qui sont impatients, c'est pas pour eux la vision de Dieu. Mais comme ces caractères sont tous en chacun d'entre nous, d'une plus ou moins fortement développée, nous avons besoin de crier au Seigneur pour qu'il mette en nous les qualités qui vont nous permettre de tenir cette vision et de pouvoir la mettre en œuvre, de pouvoir la faire avancer. Et ce n'est pas le jour où les difficultés vont commencer à venir qu'il faudra commencer à se poser des questions. C'est aujourd'hui, alors que Dieu nous appelle, qu'il faut le faire. Dieu appelle chacun. Hein, donc, dans cette, c'est ce que nous voyons aussi. Et puis ensuite, vous avez les 40 jours d'attente avant l'ascension. Donc ça, ça nous parle de l'attente dans laquelle chaque chrétien se trouve d'être enlevé, de faire son ascension vers la gloire. Et entre les deux, donc entre la nouvelle naissance et l'ascension, il y a pour nous ce temps d'épreuve, ce temps d'attente, cette période dans laquelle nous sommes en ce moment et qu'il nous faut passer victorieusement en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Hein ? Voilà, si nous avions le temps, nous pourrions voir en détail que ces dimensions du nombre 40 dans le livre des Actes sont utilisées pour parler de 7 événements différents. Et que ces 7 événements, en fait, concernent 7 caractères primordiaux de la vie chrétienne, je dirais du service chrétien, du ministère chrétien, jusqu'à ce que nous soyons auprès du Seigneur dans la gloire. Nous allons simplement les citer rapidement, enfin en essayant de... Malgré tout, on aura quelques petites digressions, mais dans Actes chapitre 1, verset 3, voilà la première, hein, première du livre des Actes. « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que dans ce temps d'épreuve où nous sommes, nous devons être remplis de la préoccupation du royaume de Dieu, de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu dans votre vie et dans ma vie, mes frères et sœurs. Savez-vous que Dieu a le désir, non seulement, comme on l'a dit, d'accomplir une vision, mais il a le désir de manifester sa puissance dans nos vies. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 20, « À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. » Lorsque vous lisez ça, mais vous avez vraiment de quoi être émerveillé. Il est marqué « Celui qui peut, par la puissance, sa puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. » Si Dieu, on parlait tout à l'heure de Dieu qui nous accorde une vision, Dieu qui a une vision pour nous et une vision personnelle pour chacun, il veut nous aider à la réaliser par le moyen des choses que nous avons avec nous, que nous avons dans nos mains. Parce que nous disons, mais moi je n'ai pas les moyens, je ne suis pas capable, je n'ai pas les possibilités, je n'ai pas. Jésus commence toujours avec ce qu'il y a de disponible sur place. Rappelez-vous ce jour où il fallait nourrir des milliers de personnes dans le désert, et que les disciples sont venus tout catastrophés vers lui, et puis qu'ils ont dit, mais voilà, il y a tous ces gens à nourrir, ça fait 3 jours, ils vont mourir, ils vont tomber de faiblesse en repartant. Et qu'est-ce que Jésus leur demande ? Qu'est-ce que vous avez ? Allez regarder ce que vous avez. Allez voir. Et c'est à partir de ce qu'ils ont ramené là que le Seigneur a fait ce miracle de la multiplication des pains. Mais vous savez, Dieu fait toujours comme ça. Dieu fait comme ça. Il dit, allez voir, qu'est-ce que vous avez dans votre vie ? Vous vous dites que vous n'avez pas grand-chose, vous avez probablement raison, hein, vous vous croyez trop faible, etc. Vous avez raison, mais sachez que le Seigneur est tout-puissant et qu'il veut à partir de là quelque chose. Dieu vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le plan qu'il a pour votre vie. Amen. Soyez convaincus de cela. Non, nous avons besoin simplement de nous attacher au Seigneur, de nous confier en lui pour pouvoir saisir cela. Amen. Notre deuxième mention dans l'ordre des Actes, chapitre 4, verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Voilà. Et ça nous montre quoi ? Ça nous montre quoi cela ? Ça nous montre que ce temps d'épreuve dans lequel nous sommes, eh bien, il faut qu'il puisse y avoir la foi au miracle. Parce que cet homme, il a été, c'était le paralytique qui était à la belle porte du temple, hein, et il était là depuis plus de 40 ans. Mais ça nous montre, enfin, il était dans son état depuis plus de 40 ans plutôt, mais ça nous montre qu'il faut que nous puissions garder et maintenir, au travers de tout ce temps d'épreuve, la foi au miracle de Dieu et la foi en la guérison divine. Et ça, c'est important. Vous savez, quand j'étais serviteur de Dieu à Saint-Dizier, eh bien, il y a un frère qui m'avait pris à partie un jour, c'était un des anciens de l'église, et puis nous étions en train de parler, un des anciens dans le parage, était chrétien depuis longtemps, et on était en train de parler du programme des missions d'été qui était prévu, tout ce qui était prévu sur place à Saint-Dizier, et voilà ce que ce frère me dit. Il me dit, mais à quoi bon faire encore des missions, et pourquoi encore au quartier du Verbois? On a déjà fait tellement de missions depuis tant d'années, bien avant que tu n'arrives ici comme pasteur, on avait déjà fait, on a évangélisé toute la ville, je ne sais pas combien de fois, tout le monde en a entendu parler, on va plus énerver les gens qu'autre chose, etc., etc. Et on a maintenu la mission, et il a même fallu la prolonger, elle était prévue pour une semaine, elle a duré en fait 19 jours, pour, dans ce même endroit, tellement il y a eu de miracles, on a eu des dizaines de miracles, et puis surtout, tellement on a eu de nouveaux qui sont venus pour écouter l'évangile. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose qui a été une bonne leçon pour moi, parce que j'avais été un petit peu ébranlé par les paroles de ce frère qui était considéré dans l'Église comme un pilier. Hein. Vous savez, la réalité, c'est que Dieu veut toujours faire des miracles. La réalité, c'est que le Seigneur veut toujours exaucer les prières, que le Seigneur veut toujours guérir. Hein. Il veut toujours agir avec puissance pour ceux qui se confient en lui. Et même s'il y a des circonstances, des confinements, etc., il est certain que le Seigneur n'est pas confiné, qu'il ne le sera jamais, qu'il ne se laissera jamais confiner, et qu'il n'est pas limité. Et il n'est pas limité pour ceux qui crient à lui, et pour ceux qui ont la foi, qui veulent garder l'obéissance, qui veulent garder l'esprit d'évangélisation en même temps. Alléluia. Et la foi du miracle, la foi en toute la parole de notre Dieu. Amen, amen, alléluia. Et puis si je poursuis encore, maintenant, j'en arrive à Actes 7, verset 23. Moïse avait 40 ans quand il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Et je remarque là que Moïse, donc, réalise une chose. Il réalise qu'il a un appel de Dieu, et qu'il doit répondre, il doit répondre à cet appel de Dieu. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option. Il doit y répondre. Et quand Moïse réalise cela, il n'est pas malade, il n'est pas dans la pauvreté, il n'est pas en mauvaise santé, il n'est pas dans la faiblesse, il n'est pas dans l'indigence, dans le besoin, mais il réalise son besoin et son devoir de servir Dieu, qu'il n'a pas le droit de résister à l'appel que Dieu lui adresse. Et vous aussi, frères et sœurs, le simple fait que nous soyons ici, le simple fait que nous soyons sur la terre, que nous soyons nés un jour, ça veut dire que nous avons un appel de Dieu pour nous, un appel personnel et particulier. Le fait que nous soyons tous différents, c'est la preuve que Dieu a un appel personnel et particulier pour chacun. Et il faut en être conscient, et pas seulement en être conscient, il faut le saisir. Il faut y entrer. Et nous voyons que Moïse a compris cela. Mais après, il a dû comprendre encore autre chose. C'est ce qui nous amène à la référence suivante, la quatrième. Actes chapitre 7, verset 29. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. En fait, là, ça nous parle de la formation de Moïse. Certains disent que Dieu a formé Moïse pendant 40 ans. Moi, je pense pas. Je pense que Dieu a formé Moïse au moins pendant 80 ans. Parce qu'il l'a formé dès son enfance, dès sa petite enfance. On le dit, les années de la petite enfance sont les plus importantes pour l'éducation. C'est bien connu, tous les psychologues vous le diront. Hein, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand vous avez un enfant entre 1 et 6 ans, vous lui mettez des impressions qui vont le suivre jusqu'à sa blanche vieillesse. Hein. Donc c'est très important. Et Dieu a permis, Dieu merci, que Moïse soit confié par la fille de Pharaon à sa mère, sa propre mère, qui a pu ainsi lui donner quelque part les fondements d'une éducation hébraïque telle qu'elle pouvait se concevoir à ce moment-là. Donc, ensuite, il a été instruit dans sa jeunesse, nous a-t-il dit, et en continuant, jusqu'à un âge déjà mûr de 40 ans, dans toute la sagesse des Égyptiens, nous dit la parole de Dieu. Et donc, ça veut dire quoi? C'est quelque chose de très impressionnant, de très considérable, que la sagesse des Égyptiens à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, les découvertes archéologiques sont là pour nous le prouver facilement, c'était quelque chose de considérable. Ça veut dire qu'il s'est frotté en son temps aux esprits les plus brillants, les plus instruits, les plus érudits de son époque, et il a acquis des connaissances et un développement de ses capacités qui étaient considérables. Et arrivé à ce point, il a même dû penser que sa formation était maintenant achevée, qu'il avait acquis le maximum de développement de ses qualités pour devenir le libérateur de son peuple. Voilà, et il a essayé de le faire par ses propres forces, par ses capacités, avec le résultat lamentable que ça a obtenu, c'est-à-dire qu'il a tué l'Égyptien. Il n'a pas été compris ni suivi par ceux qu'il voulait libérer. Au contraire, il a même été trahi par eux et il n'a dû son salut qu'à une fuite rapide hors d'Égypte et au désert. Voilà. Et c'est là que Dieu l'attendait. C'est là que Dieu l'attendait parce que Dieu avait une autre formation en vue. Une autre formation à faire à laquelle lui, Moïse, n'aurait jamais pensé, qu'il n'aurait jamais imaginé et qui lui était pourtant indispensable pour accomplir le plan que Dieu avait pour sa vie, plan d'ailleurs dont il n'avait également pas la moindre idée. Hein, donc, et Dieu l'a formé au travail de berger déjà. Travail de berger et de berger dans un contexte de désert. Vous savez, un berger dans un contexte de désert, franchement, c'est quelqu'un qui a vraiment un métier. Hein, un métier vraiment qui vaut la peine d'être tenu, et parce que ce n'est pas évident. Hein. Pourquoi? Parce que plus tard, eh bien, il aurait à paître et à conduire aussi le troupeau de Dieu dans le désert. Et puis, il l'a formé à avoir des relations avec des bédouins nomades, parce que c'était toutes ces tribus qui étaient là, et à découvrir, à comprendre leur mentalité particulière, parce que là aussi, plus tard, il aurait affaire à ces tribus de bédouins nomades dans le désert. Hein. Lorsqu'il conduirait le peuple d'Israël dans ces milieux hostiles, il aurait affaire à eux soit comme alliés, soit en tant qu'ennemis. Pardon. Et surtout, il l'a formé dans ce qui était le plus difficile à former, et c'est là que les 40 ans du désert n'ont pas été de trop, il l'a formé dans son caractère. Il l'a formé dans son caractère. Hein. Il l'a fait ainsi passer par un brisement complet sur le long terme, et c'est comme ça que le Moïse, fier, impulsif, efficace, violent, probablement aussi formé au sport de combat et à l'exercice militaire le plus élitiste de l'armée égyptienne, donc, ce Moïse est devenu l'homme le plus conscient de son incapacité de la terre. L'homme le plus patient de la terre est-il devenu, hein ? Et il a fallu cela, heureusement pour le peuple d'Israël, qu'il est passé par cette formation-là. Parce que quand il avait fallu les porter, les supporter dans le désert, ils étaient franchement imbuvables, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Bien souvent, c'était vraiment, vraiment problématique. Heureusement que Moïse a été immensément patient. Parce qu'il y a eu plusieurs occasions, si Moïse n'avait pas eu cette patience, eh bien, ils auraient été consumés tous complètement dans le désert et leur histoire se serait probablement arrêtée là. Et ça m'aide à mesurer aussi pour moi-même combien je suis encore en formation et que j'ai besoin aussi d'être encore à l'école de Dieu, à son écoute, m'humilier sous sa main pour que les choses changent grandement encore de ma vie et aussi de mon propre caractère. Amen. Amen. Et puis si je poursuis, je trouve maintenant les trois passages dans lesquels il est parlé du peuple d'Israël au désert pendant 40 ans. Je ne m'y appesantis pas trop parce que Dieu voulant, nous approfondirons un petit peu plus loin. Sur acte 7, verset 36, verset 42 et chapitre 13, verset 18. Donc, mais en tout cas, ça nous rappelle que, en tant que croyants, nous faisons aussi partie d'un peuple. Nous faisons aussi partie d'une assemblée dont nous avons besoin. Et cette période de désert, c'était aussi une période d'assemblée. Et il faut se souvenir de cela. Hein. Le salut, c'est une affaire personnelle, individuelle, devant Dieu, une expérience personnelle. Mais notre marche ensuite, notre marche dans la vie chrétienne, ça nécessite bien sûr la présence du Seigneur à nos côtés, mais aussi la présence d'autres personnes avec nous, pour nous encourager, pour nous reprendre, pour nous soutenir dans les actions que nous ne pouvons pas accomplir nous-mêmes ou pas accomplir tout seul. Hein, c'est pour ça que Jésus a affirmé que si deux ou trois d'entre vous se mettent d'accord pour demander ou quoi que ce soit au Seigneur, mon Père qui est dans les cieux là, vous la donnera. Hein, c'est Matthieu chapitre 18, verset 19. Nous avons besoin des autres pour remporter la victoire. Lorsque vous reparlez de Moïse dans le désert, rappelez-vous, dans la guerre contre Amalek, déjà, il a fallu combattre sur deux fronts. Et ces deux fronts, on les retrouve, hein, vous savez. Déjà, dans la vallée, il y avait Josué qui devait combattre avec le peuple d'Israël contre Amalek. Et sur la montagne, vous aviez Moïse qui devait mener le combat spirituel. Et Moïse a mené le combat spirituel. Et l'Écriture nous montre clairement que quand il gardait les mains levées, eh bien, tout le temps que les mains étaient levées, la victoire était en train de se gagner en bas. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Vous savez, il y a des choses, elles ne se font pas toutes seules. Il y a des choses, il faut lutter et prier pour les avoir. Ce n'est pas simplement une prière de 3 secondes et puis c'est fini. Ce n'est pas comme ça. Il y a un combat spirituel. Et vous pouvez remarquer que lorsque Moïse était là, à un moment, ses bras étaient fatigués. Et heureusement, se trouvaient là qui ? Aaron et Hur. Tous les deux, ils étaient là et ils sont venus tous les deux. Et ils sont venus lui soutenir les bras pour qu'il reste ferme jusqu'au coucher du soleil. Et c'est comme ça que la victoire a été remportée au coucher du soleil. Ah oui, le combat contre le diable, ça ne se fait pas toujours facilement. Des fois, il faut lutter, mes amis. Il faut lutter. De toute façon, dans la vie, il faut lutter. Dans la vie, il faudra lutter. Ceux qui croient qu'ils vont tout avoir en se croisant les doigts, ce n'est même pas la peine de commencer. Non, il faut lutter. Et là, nous voyons dans ce cas, et nous nous trouvons aussi dans cette situation. Hein, et un homme de Dieu disait, chaque Josué a besoin d'un Moïse, et chaque Moïse a besoin d'un Aaron et d'un Hur. Si vous connaissez un Moïse engagé dans une bataille spirituelle, allez-vous jouer le rôle d'Aaron et de Hur, ou au contraire, laisser Amalek l'emporter sur lui ? Vous choisissez l'un ou l'autre. Et c'est important que nous puissions encore saisir cela. Notre 6e mention se trouve dans le livre des Actes, donc au chapitre 13, plutôt notre 6e situation, plutôt, pas mention, parce que j'en ai sauté 3. Acte 13, verset 21. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Amen. » Et cette attente de 40 ans avec un mauvais roi, cette attente de 40 ans à supporter un Saül qui était compliqué, pour quoi faire ? Pour avoir le roi selon le cœur de Dieu. Et ça nous rappelle que nous aussi, nous sommes dans ce temps d'épreuve où nous attendons la manifestation de notre roi. De notre roi qui est Jésus, vraiment le roi, selon le cœur de Dieu, donc dont David n'était évidemment que l'image et la préfiguration. Amen. Et puis enfin, en 7e, donc, pour nous parler des 7 domaines, acte 23, verset 12, « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. » Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Voilà. Paul savait qu'il y avait des combats. Hein ? Là, vous voyez, tous ces gens qui veulent, ses ennemis, qui veulent le détruire. Et ça nous rappelle que tout le temps que nous sommes ici-bas, il y a des forces cachées, maléfiques, qui sont là, derrière lesquelles, évidemment, il y a aussi ces démons, ces principautés spirituelles, ces puissances mauvaises, et qui s'engagent contre notre service, contre notre ministère, et puis contre notre vie avec Dieu. Donc, nous sommes devant la réalité de ce combat spirituel. Et ainsi, voyez-vous que ces diverses utilisations du nombre 40 dans le livre des Actes couvrent les domaines importants de notre vie avec Dieu. Pardon. Depuis le temps où nous convertissons jusqu'à celui où nous partons dans la gloire auprès du Seigneur. Voilà. Et maintenant, nous voulons encore développer un grand point, à propos duquel ce nombre 40 est utilisé 3 fois. C'est pour ça qu'il est important aussi d'insister là-dessus. C'est que notre vie avec Dieu, ici-bas, est caractérisée par une vie d'assemblée. Quand même se souvenir de cela, et je crois que ce n'est pas superflu d'en parler aujourd'hui dans les temps que nous vivons. 1 Pierre 2, verset 10, il est dit, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Amen. Et là, j'en reviens au premier donc, de ces 3 passages, c'est notre texte de départ de tout à l'heure. C'est lui qui les fait monter hors d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. En Égypte, au sein de la mer Rouge, au désert pendant 40 ans. Il a fallu que la puissance de Dieu se manifeste dans toutes ces situations-là. Il a fallu qu'ils apprennent à vivre ensemble avec la puissance de Dieu, avec la puissance de Dieu manifestée. Au pays d'Égypte, vous vous souvenez, ça a été les signes qui ont été donnés, ça a été les 10 plaies d'Égypte, et ça a été la préservation du peuple de Dieu pour la délivrance. Pour la mer Rouge, vous vous en souvenez aussi, la façon dont les eaux se sont ouvertes, de manière à ce qu'ils puissent passer, et les eaux se sont refermées, de manière à ce qu'ils soient délivrés de leurs ennemis. Et la condition, c'était quoi? C'était lorsqu'ils étaient là en train de gémir et de se plaindre, et que Moïse a dit à Dieu, écoute, voilà le problème, il est là. Dieu a dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est ça qu'ils devaient faire. Hein, tu leur parles et ils marchent. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est comme ça qu'ils s'en sont sortis. Et tant qu'ils ont fait comme ça, ils s'en sont sortis. Et au désert, d'ailleurs après, ça a été pareil. Hein. Vous savez, le désert, ça représente quoi? Ben, ça représente la vie que nous continuons à parcourir chaque jour dans ce grand et affreux désert de ce monde. Combien il a fallu de miracles de Dieu pour les sauver pendant l'Exode. Combien il a fallu de miracles pour sauver l'Assemblée. Et nous voyons que l'autorité de Moïse, dans cette situation, ben, était préservée tout le temps qu'il regardait à Christ. Ainsi était-il fortifié dans la foi et fortifié dans l'autorité. Le deuxième de ces trois passages, de nos trois passages, se trouve à peine plus loin, Actes chapitre 7, au verset 39, jusqu'au verset 43. Et là, le problème qu'on a, c'est les choses qui sont dénoncées. Il est dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. En ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Voilà. Pendant ces 40 ans, il y a une lutte continuelle contre la désobéissance et l'idolâtrie. Quelles sont les qualités qui sont nécessaires là? Ces qualités qui sont nécessaires, ce sont la fermeté et la fidélité. Vous savez, quand on vous parle de fidélité aujourd'hui, c'est un mot, on vous regarde avec les yeux ronds, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gamins à l'école qui connaissent la définition du mot fidélité. Hein. On vous regarde avec les yeux ronds, remarquez, ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que déjà la Rochefoucauld disait en son temps, « Fidèle, je croyais que ce n'était plus que le nom d'un chien. » Voilà. Mais c'est aussi le nom d'un vrai chrétien. Et vous avez là 7 points qui sont donnés, qui vous montrent la désobéissance et l'idolâtrie dans le peuple. Et il faut dénoncer ça, il faut le combattre. Hein. Déjà, il est marqué, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Donc vous avez une volonté opposée. Ils n'ont pas voulu obéir à Dieu, ils n'ont pas voulu obéir à Moïse. Voilà, déjà comme ça. Ensuite, il est marqué, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Au verset 39, hein. C'est marqué encore. Et là, vous avez un manque de conversion, c'est-à-dire ils marchent dans ce sens-là, mais leur cœur est tourné vers l'arrière. Hein, on voit cette triste réalité. Ils marchent en quelque sorte à reculons, si on peut parler comme ça. Hein, ils vont dire, oh ben, on se souvient, quand on est en Égypte, on avait des oignons, on avait des concombres, on avait des aulcs, enfin des œufs de l'ail au pluriel, voilà, etc. Vous avez la mémoire sélective. Hein, quand on choisit dans son passé ce qui nous arrange et qu'on oublie le reste. Ils oublient qu'en Égypte, ils étaient esclaves et qu'ils souffraient et qu'on voulait tuer leurs enfants. Tout ça, c'est passé à l'as. Tout ce dont ils se souviennent, c'est ce qui les intéresse sur le coup, voyez-vous. Hein, et c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on se souvient des choses. Hein, donc, voilà, et souvenez-vous aussi de la femme de Lot, nous est-il dit. Puis ensuite, troisième mauvaise chose qu'on voit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Voilà. Donc, ils veulent des dieux qu'ils peuvent voir, des dieux qui marchent devant eux, et c'est évidemment un manque de spiritualité, parce qu'il leur faut continuellement voir pour croire. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quels sont ceux qui sont heureux, qui n'ont pas vu et qui ont cru? Eh bien, ce sont ceux qui sont appuyés uniquement sur la parole de Dieu. Si vous voulez être de ceux que le Seigneur dit heureux parce qu'ils n'ont pas vu et qu'ils ont cru, appuyez-vous, appuyons-nous, frères et sœurs, uniquement sur la parole de Dieu. Lue et méditez avec ardeur, assiduité et continuité. Le psaume 119 dit « Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur et je les ai dévorées. » Alléluia. Dans Josué chapitre 1, ce passage auquel je reviens sans jamais me lasser, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Alléluia. Et puis après, non seulement lui est médité, mais aussi obéi, mis en pratique avec fidélité et jusque dans les choses qui paraissent petites, mais qui ne le sont pas en réalité. Hein? Je continue mon passage dans Josué, « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » Avec le secours du Seigneur. Jésus rajoute, oui, « Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ils tournent à l'envers. Celui qui m'aime, si vous m'aimez, pardon, gardez mes commandements. » Voilà, donc c'est très compréhensible. Et ça nous amène à expérimenter les promesses de Dieu. Attention, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, faisons les choses dans l'ordre. La foi et l'obéissance persévérante d'abord, et la réponse divine après. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que dans Josué 1, où je reviens, il est marqué, « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et nous avons l'apôtre Jean qui nous dit, « Pour nous, nous savons qu'il nous exauce toujours, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Alléluia. Alors voilà, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, et dont la foi continue à croître, c'est ceux qui vont continuer inlassablement à creuser la parole de Dieu et à la saisir de mieux en mieux par la prière, par l'intelligence et par le cœur. Et c'est comme ça que leur foi va grandir de plus en plus, qu'ils vont intégrer de mieux en mieux la pensée de Dieu, qu'ils vont de mieux en mieux comprendre quelle est la volonté de Dieu pour leur vie et dans les situations où Dieu les place. Et ils vont aussi de mieux en mieux pouvoir saisir l'épreuve interne que la Bible est bien la parole de Dieu. Quelles sont les preuves internes? Déjà, la cohérence interne du message. Vous savez, la Bible, il y a toutes sortes d'auteurs, de toutes sortes d'époques, de toutes sortes de cultures. Et pourtant, vous la prenez du début à la fin, vous n'avez aucune contradiction. Vous n'avez aucune contradiction. Il y a vraiment une même inspiration. Et puis ensuite, vous avez aussi la manière progressive et harmonieuse dont la révélation se fait, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les manifestations admirables de l'inspiration divine, là aussi. Et ça va nourrir votre âme. Alléluia. Ça va la fortifier d'une nourriture riche, abondante, d'une nourriture édifiante, jour après jour, sans jamais manquer. Merci Seigneur, alléluia. Et ça va vous amener à faire des expériences de foi personnelles, que ce soit pour le salut, la croissance, l'édification, l'affermissement et la bénédiction qui enrichit, sans parler des preuves externes. Les preuves externes, c'est quoi? Que la Bible est bien la parole de Dieu. Les preuves externes, c'est déjà les prophéties bibliques, celles qui se sont accomplies, celles qui sont en train de se réaliser, qu'on le voit, puis dont on voit qu'elles vont de plus en plus se réaliser. Donc ça nous fortifie. Et puis vous avez aussi les témoignages de miracles et de vies transformées qui sont opérées par le moyen de la parole de Dieu, par la mise en pratique de la parole de Dieu avec foi, avec obéissance, et puis enfin les expériences personnelles qu'on peut faire aussi de ce point de vue-là, qui vont également fortifier cette foi de plus en plus. Oui, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen, amen. Alors, si je continue à la dénonciation de notre texte, donc des Actes, le livre des Actes, au chapitre 7, au verset 39, mon quatrième point, c'est quand ils ont dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous ». Pourquoi? Parce que dans le monde, c'est comme ça. Autour d'eux, c'est comme ça. Hein, nous voyons, ils ont ce complexe. Vous savez, le problème du monde qui rentre dans l'Église, ce n'est pas le problème des inconvertis qui veulent faire rentrer le monde dans l'Église. C'est le problème trop souvent des croyants qui sont dans l'Église et qui ont des complexes vis-à-vis du monde. C'est trop souvent ça le problème. Hein. C'est parce qu'ils se disent, mais si on est différent des autres, alors comment est-ce qu'on va être considéré, etc. Vous voulez quoi? Vous voulez être des petits clones? Hein? Est-ce qu'on veut être comme ça? Dieu ne veut pas ça. Hein? Dieu ne veut pas de ça, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Si vous voulez vous contenter d'être quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui se fond dans la masse, et puis quelqu'un qu'on ne remarque jamais, vous savez, vous n'allez pas. Lorsque le Seigneur dit que nous devons être le sel de la terre, vous savez à quoi ça sert le sel? Le sel, ben, ça servait à l'époque à désinfecter, à conserver, des fois un peu à irriter, à apporter du goût. Mais en tout cas, vous devez être quelqu'un de différent. Si vous voulez être un moyen de bénédiction autour de vous, soyez différent du monde, a dit le Seigneur. Hein? Imaginez-vous au crépuscule de la fin de votre vie en train de vous dire, mais en quoi ma vie a-t-elle changé ou aidé quoi que ce soit ou qui que ce soit? Jésus lui pouvait dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Hein? Le vrai succès, c'est de devenir la personne que Dieu veut former en vous, d'accomplir ce que Dieu attend de vous et de posséder ce que Dieu voudrait que vous puissiez obtenir. Amen. Alors vous savez, Dieu, il n'a pas fait deux flocons de neige qui sont les mêmes. Tous les flocons de neige sont différents l'un de l'autre. Tous parfaits, mais tous différents quand vous les regardez au microscope. Il n'y a pas une seule empreinte digitale qui soit la même entre nous tous et entre tous les hommes et femmes de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Eh bien, c'est pour nous montrer qu'il a quelque chose de particulier pour nous. Il a un talent qui est en vous. Alors ce talent, eh bien, cherchez-le, découvrez-le, et avec son secours, développez-le, et soyez de cette manière-là des témoins. Amen. Dieu nous demande à être des témoins. Il nous compare, l'apôtre Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, que nous sommes des vases d'argile, mais qu'en nous, il y a un trésor. Alors vous savez, l'important, ce n'est pas que le vase d'argile soit parfait. Vous pouvez être un vase d'argile ébréché, vous pouvez être un vase d'argile, je ne sais pas moi, rayé, gratigné, pourvu que vous soyez propre à l'intérieur. Et à ce moment-là, le trésor qui est en vous, c'est ça qui est important. C'est ça qui est précieux. Et c'est ça que Dieu nous demande d'être des témoins. Et alors, nous pouvons, si nous sommes purifiés, lavés, récurés avec le secours du Seigneur, eh bien, nous pouvons faire notre rôle de vase. Et nous pouvons partager notre témoignage. Rappelez-vous, la femme samaritaine, c'était loin d'être un phénix, hein, au niveau moral. C'était vraiment une situation compliquée, même aujourd'hui, on dirait que c'est pas rien. Hein, mais à l'époque, encore pire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle est allée auprès des gens de son village, et puis elle leur a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la curiosité des gens a été aiguisée, et ils sont allés, et ils ont découvert le Sauveur. Mais c'est ça que Dieu nous demande de faire. Hein. Dieu ne nous demande pas d'être plus que ça, de faire plus que cela. Hein, lorsque à l'homme que Jésus venait de libérer de tous ses démons, vous vous souvenez, le démoniaque de Gadara, pareil, un homme qui était dans une situation de possession absolument affreuse, hein, et cet homme, il voulait le suivre. Jésus lui a dit non, retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Vous savez, les gens, ils aiment écouter les histoires. Ils aiment les belles histoires, les gens. Surtout quand les histoires se finissent bien. Hein. Et quand vous avez une belle histoire à raconter, l'histoire de ce que Dieu a fait pour vous, ou de ce que Dieu a fait pour des personnes autour de vous, bon, je ne dis pas que tous les gens vous écouteront toujours la première fois, mais quand même, si en plus vous pouvez leur dire, voilà ce que le Seigneur a fait, il y a des gens qui vont être touchés. Il y a des gens qui vont être touchés, c'est sûr. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'embellir votre histoire, hein, ce n'est pas la peine. Racontez simplement ce que Dieu a fait pour vous, parce que si plus les gens vont découvrir que votre situation se rapproche de la leur, et plus aussi ils seront à même de réaliser que cette grâce qui vous a sauvé vous peut aussi les sauver eux. Amen. Et vous serez bénis vous-même en étant des témoins. Amen. C'est aussi ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Et puis si j'avance encore, bien, je vois qu'il est marqué « Ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Comment ça, ce Moïse? Comment ça qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? Mais il avait fait bien plus que ça. Mais eux, ils s'étaient juste limités à cette expérience-là. Voilà. Ce Moïse nous a fait sortir du pays d'Égypte. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Non, mais les gars, vous exagérez quand même. Hein? Il avait fait beaucoup plus et beaucoup mieux. Vous savez, les gens, ils en sont restés à la première expérience qu'ils ont faite avec le Seigneur. Ben voilà, le Seigneur, il a fait ça pour moi. Mais on dirait que Dieu n'a jamais rien fait d'autre pour eux après. C'est un problème, ça. Dieu veut qu'on puisse avancer. Dieu veut qu'on puisse grandir en lui. Il y a des quantités de bonnes choses que Dieu a faites pour eux, et peut-être avons-nous besoin de réaliser aussi certaines des grandes choses que Dieu a déjà faites pour nous. Mais en tout cas, le Seigneur veut continuer à faire beaucoup de grandes et belles choses pour chacune et pour chacun d'entre nous. Et là aussi, c'est quelque chose que le Seigneur veut nous faire saisir, que le Seigneur veut également nous faire réaliser. Mais il faut que dans notre tête, là, il faut que les choses puissent aussi évoluer, que les choses puissent aussi avancer. Et puis nous lisons encore, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole. Ah oui, là c'est vrai, ce penchant maladif à sacrifier à des choses vaines. Regardez à quoi ils se sont attachés. L'étoile du Dieu enfant, la tente de Moloch, nous est-il dit, et d'autres objets encore de pierre, de fer, de bois, dans lesquels ils ont placé leur confiance. Et ça ne serait que stupide s'il n'y avait pas des démons derrière tout ça, qui font aussi leur travail, parce qu'il faut se souvenir que Moloch exigeait les sacrifices d'enfants, par exemple. Hein, on le voit, vous savez, l'idolâtrie dans un cœur, hein, ça a des conséquences. Que Dieu nous aide à chasser l'idolâtrie du cœur, spécialement. Et puis de nos maisons, bien sûr, si nécessaire. Mais en tout cas, ça peut avoir des conséquences pour la perte des enfants, pour leur perte, pour l'éternité même. Hein, on le voit dans ce genre de situation. Et puis enfin, il est marqué qu'ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains, verset 41. C'est une joie superficielle, cette joie, je dirais, quelque part dans les œuvres religieuses, mais pas dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et on voit que Dieu les a laissés. Dieu dit qu'il les laisse. Dieu dit qu'il se détourne d'eux. Hein. Donc, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Voilà, vous êtes dans cette joie superficielle, mais qui en fait va se terminer de manière désastreuse pour vous. Voilà, et c'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut quand même être au courant de ces choses, être averti. Et ça, ça nous amène à notre dernier passage, donc acte chapitre 13, verset 18. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert. Il a nourri l'assemblée et Dieu le fait, et Dieu veut le faire, et Dieu le fera, et Dieu continuera à le faire. C'est son désir, c'est sa volonté, et il veut encore se glorifier en cela. Alors, eh bien, nous sommes invités à tenir bon, frères et sœurs, tenir bon ici-bas, depuis que nous avons rencontré le Seigneur, jusqu'au moment où nous serons emmenés dans la gloire, dans ce temps d'épreuve où nous sommes maintenant, mais aussi ce temps de combat et de victoire, parce que Dieu veut nous rendre victorieux. Alors, il faut que nous soyons conscients de cette nécessité de la vie d'assemblée, que nous maintenions la foi au miracle et que nous maintenions aussi l'esprit d'évangélisation et l'obéissance, parce que ce sont choses qui vont ensemble. Vous savez, je donne un petit témoignage là que je n'ai jamais oublié, qui m'a toujours frappé. C'est une expérience qui avait été faite en mission sous le chapiteau lorsque encore servais le Seigneur à Saint-Dizier. Et à la fin de la réunion, il n'était pas rare d'avoir à prier pour des personnes nouvelles, pour les délier des choses occultes. Hein, lorsque des personnes nouvelles étaient venues au Seigneur, et puis qu'elles avaient donné leur cœur au Seigneur, vous savez, vous avez 95% des Français qui ont touché aux choses occultes. Hein, en gros, moi je peux vous le dire franchement, je ne suis pas du tout en dehors de la probabilité quand je dis ça. Donc ça veut dire que vous pouvez pratiquement à chaque fois délier quelqu'un de certaines choses occultes. Mais vous ne savez pas toujours à quel genre de lien et à quel genre d'esprit vous avez affaire. Hein. Ce n'est pas marqué sur leur nez aux gens. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à être baptisé du Saint-Esprit et à servir le Seigneur quand on touche à ces choses. Hein. Et c'est pour ça qu'on a intérêt aussi à obéir à la parole de Dieu. Parce que ce soir-là, donc, on a fait comme les autres fois, et la personne était venue pour qu'on prie pour elle, pour les choses occultes. Alors à la cantonade, on a dit, frères et sœurs, on va prier pour les choses occultes, pour les gens qui sont encore là. Certains étaient partis, d'autres étaient encore restés. Et puis alors donc, tout le monde s'est mis en position de prière. Et puis on a prié pour les choses occultes. Voilà. Et puis la personne a été déliée des choses occultes. Mais sous ce chapiteau, il y avait deux jeunes chrétiennes. Alors, je ne sais pas si c'est par oubli, par négligence ou quoi, elle n'avait pas mis le voile. Elle n'avait pas mis le voile, donc, au moment où on priait pour ça. Eh bien, elles se sont d'un seul coup, toutes les deux, malades. Mais vraiment malades. Hein? Donc, c'est tout. Et puis, dans l'euphorie, enfin, là, dans le départ, la fin de la réunion, donc, on les a ramenées. Mais elles ont été malades toute la nuit. Et puis le lendemain, il a fallu prier pour elles, pour les délier. Parce qu'il y avait une puissance. Il y a des esprits qui traînent, vous savez. Quand les esprits sortent, il ne faut pas jouer, on ne joue pas avec ça. faut pas jouer avec ça. Ce sont des réalités. Et ça nous montre que nous avons affaire à un Dieu de puissance. Nous avons affaire à un Dieu qui fait des miracles. Nous avons affaire à un Dieu qui veut sauver. Nous avons affaire à un Dieu qui veut délivrer. Mais il faut aussi que nous-mêmes, nous mettions et restions dans une position d'obéissance à la parole de Dieu, hein, de tout notre cœur. Et à ce moment-là, bien, nous pourrons voir, si tu crois, si tu as une foi obéissante, tu verras toi aussi la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est le désir du Seigneur, c'est sa volonté. Il veut encore se manifester, il veut encore se glorifier. Eh bien, son désir, oui, c'est qu'il puisse bénir nos corps, nos âmes et nos esprits à chacun et aussi tous ensemble. Béni soit son nom. Amen, amen. Nous te remercions, Seigneur, et nous te bénissons parce que ta parole est encore vivante et efficace aujourd'hui. Parce que tu veux encore te manifester, parce que tu veux encore te glorifier, Seigneur, parce que tu veux encore faire ton œuvre, Jésus, en faveur des tiens, en faveur des uns, en faveur des autres, Seigneur. Tu vois et tu connais la situation et les besoins de chacun. Et je sais que tu as un plan et je sais que tu as une vision pour chacune de nos vies, à nous tous qui sommes ici, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et merci, Seigneur, pour ton amour que tu veux encore manifester. Et merci pour ton œuvre que tu veux encore accomplir. Et merci, Seigneur, pour ta volonté qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite, qui est la meilleure qui soit. Oh, sois loué, sois béni, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ces instants dans lesquels tu agis encore et dans lesquels tu nous donnes encore de te glorifier. Amen, amen, alléluia, 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 gloire à Dieu. Voilà, nous avons plusieurs annonces aussi. Je vous rappelle que la réunion de prière, c'est le mercredi à 16h pour l'instant, toujours. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour cette réunion. La prédication en ligne, pour l'instant, c'est encore le vendredi à 20h15 sur le site de l'Église. On ne peut pas encore reprendre les réunions du vendredi, mais on espère que l'horizon va se dégager bientôt. L'évangélisation dans les villages, c'est le samedi, toujours à 14h30. Rendez-vous ici pour cela. Et puis la réunion de frères, avoir une réunion de frères qui est prévue pour le samedi 27. Dans deux semaines, donc, à 14h30 ici. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous soutienne et vous fortifie en lui.